tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutus.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico, et nous nous retrouvons pour nos traversées salées dans l'océan des films de requins. Un océan où nagent des spécimens très différents, comme nous allons le voir aujourd'hui, avec Sharknado numéro 2 d'Anthony Seferant en 2014, et avec Open Waters de Chris Kentis en 2003. Est-il encore besoin de vous rappeler le principe de l'émission ? Faisons-le quand même. Nous avons sélectionné donc deux films de requins que nous allons passer sur le grill pour en tirer les compétences squalo-cinématographiques ou squalographiques, c'est-à-dire l'originalité, l'histoire, l'ambiance, la réalisation, les acteurs et la qualité des requins, pour leur attribuer de 1 à 3 points selon qu'ils soient non acquis, insuffisamment acquis, en cours d'acquisition ou acquis. Ce qui nous donnera un total de 18 auquel nous rajouterons 2 points d'avis personnel. Nous pourrons ensuite reclasser les films dans une des 5 catégories suivantes. Au-dessus de 16 points, les incontournables, pour l'instant fort peu nombreux. Au-dessus de 12, les bons. Au-dessus de 8, les routiniers. Au-dessus de 4, les nuls. Et si on est en dessous de 4, on est dans les à fuir, ne nous le cachons pas. Alors donc, deux films très différents entre la gaudriole pour sci-fi et le petit film d'auteur quasi amateur. Alors, prêt à jeter à l'eau ?
Nous commençons notre descente et allons traverser une petite zone de turbulence.
Bientôt à la maison. Tu es sûr que ça va?
Ça recommence.
Si de causer de sérieux dégâts sur les maisons situées tout le long des côtes.
Il faut boucler la ville. Un orage cataclysmique est sur le point de s'abattre sur Manhattan.
Regardez. Depuis quand il y a des requins à Manhattan.
Martin et Vaughn sont au match de baseball.
Et c'est vrai que ça se rafraîchit.
On doit s'en aller.
Il sera le premier touché.
Il y a des requins en feu là-haut!
Des inondations importantes partout dans Manhattan.
Des dévastations monstrueuses et sans précédent.
Comment nous allons jeter la bombe?
Je dois trouver une tronçonneuse.
Lorsqu'un malheur nous frappe, nous rendons coup pour coup.
Faut faire vite avant que les vortex ne se rejoignent!
Des requins!
De ouf, mon vieux Tony, ça a marché de ouf. Dans Sharknado, c'est 1 million de spectateurs le premier soir. Le public est à burn, faut qu'on fasse une suite, c'est trop obligé. Notre responsable stratégique qualité cinéma, il est chaud patate. On a un responsable stratégique qualité cinéma, nous maintenant, Asie Asylum ? Ouais, Bob, notre expert comptable. Ah, ok. Ouais, bah je sais pas trop, je veux dire, des requins dans une tornade, on a déjà un petit peu fait le tour, non ? Ça vole quand même pas haut, c'est le cas de le dire. Ben non, il y a plein de trucs nouveaux à faire, là. Déjà, le premier, c'était à Los Angeles. Là, on va voir plus grand. Ton Sharknado, il va aller à New York. Ah ouais, on a gratté des dégrèvements fiscaux auprès de la municipalité ou de l'État. Bah, tu m'étonnes. Non, mais franchement, j'ai pas trop d'idées, là. C'est un peu rincé, quand même, de refaire un film de requin dans une tornade. Ben non, je te dis, t'as qu'à, je sais pas, moi, approfondir les personnages. Approfondir les personnages de Sharknado ? Finn et sa tronçonneuse ? L'autre gourdasse d'April, interprétée par Tara Reid ? Ouais, bah, on trouvera bien 2-3 has-beens pour compléter le cast. Non, franchement, ce film, tu dois le faire. Je suis pas sûr, je le sens pas. Non, c'est pas bien compris, Tony. Ce film, tu dois le faire.
Certaines routes sont déjà bloquées, la circulation est très perturbée.
Signalons aussi que 2 trompes marines se sont formées au-dessus de l'East et de l'Hudson River. Elles entrent maintenant dans Manhattan et semblent être attirées l'une par l'autre. Il est donc vivement déconseillé de rester dehors.
Je ne voudrais alarmer personne, mais il est fort probable que New York soit actuellement victime d'une de ces tempêtes...
Un Sharknado, Matt.
D'un Sharknado extrêmement puissant, identique à celui qui s'est abattu l'an dernier sur Los Angeles. Al va nous donner plus de détails.
Matt, sachez que ces Sharknado... sont des anomalies extrêmement rares. Par le passé, ils ont été confondus avec les tempêtes dans les rapports de la marine, alors qu'un Sharknado est bien plus puissant et plus meurtrier que la plus forte des tempêtes.
Los Angeles a déjà été touché. Quel conseil pourrait-on donner aux New-Yorkais victimes de ce phénomène aujourd'hui ?
Il faut absolument éviter de s'approcher des côtes. Les risques sont réellement considérables et je pèse mes mots. Comprenez bien qu'un Sharknado a aussi des dents. Tout est dit.
Ouais, ben si c'est une anomalie, elle n'est pas suffisamment rare pour qu'on évite d'en faire 6 de suite. Sharknado, on prend les mêmes et on recommence, on a un peu moins bien. Quand on voit déjà la gueule du premier volet, Nous retrouvons le couple du premier film, Finn et April, interprété par Ian Ziering et Tara Reid, qui sont en vol vers New York pour aller dédicacer leur livre « Comment survivre à un Sharknado » et au passage voir la famille de Finn dans la grosse pomme. Pourtant, celui-ci est inquiet. La météo est formelle, on annonce des tornades carabinées sur la ville. D'ailleurs, le 747 traverse en ce moment même une trombe, dans laquelle, c'est marrant, on dirait qu'il y a des formes qui s'agitent. Bon, on le voit, le film ne perd pas de temps, et après 5 minutes d'exposition, on nous lance immédiatement dans la bataille avec une première attaque de requins volants sur un avion de ligne, piloté au passage par Robert Hayes, le héros de Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Premier caméo d'une longue cohorte, jeté à notre face avec la volonté forcée de connivence qui frise le mépris d'un réalisateur qui nous fait des coups de coude en nous disant « Hé, t'as vu, j'ai ramené machin !» Je dois d'ailleurs reconnaître que cette scène en avion, c'est peut-être la meilleure du film. La mise en scène parodie les films catastrophes des années 70, et il y a même une référence directe à un célèbre épisode de Twilight Zone, celui du Gremlins qui s'en prend à l'aile de l'avion. Une fois arrivé à New York, on s'embarrasse pas à faire une histoire, on va juste empiler des scénettes. On va se balader d'un lieu à l'autre, au milieu des tempêtes de requins, sans souci de cohérence. Un stade, un métro, la Statue de la Liberté, l'Empire State Building, qu'importe. Autant de vignettes à peine connectées les unes aux autres, le tout évidemment compilé avec frénésie. Un peu comme ces enfants hyperactifs qui vident leur caisse à jouets pour vous montrer un par un les derniers joujoux qu'ils ont reçus. Mais va reprendre une cuillère de sirop pour la toux qui fait dormir, Phil. Ça sera mieux pour tout le monde. D'autant que pour compenser la faiblesse et le manque d'originalité de son scénar, Anthony Seferant nous livre un produit speed et hideux, que n'aurait pas renié un Jean-Marie Poiret de la grande époque. J'ai rarement vu un montage aussi saccadé, avec des raccords entre les plans qui font qu'à un moment, on ne sait plus comment les personnages sont placés dans la scène. Ferrante livrant quand même habituellement des produits un peu plus propres que ça, ça me laisse penser que ça a été salement rushé à la post-production pour tenir les délais.
Tu sais que deux de mes amis sont morts. J'ai quasiment détruit Los Angeles et puis... j'ai fini dans la gueule d'un requin. Crois-tu vraiment que ça donne envie d'en profiter ?
Tu as raison, je suis désolée,
non, non.
Je...
Non, c'est moi. Mais c'est juste... c'est cette notoriété qui est folle.
Ça ne te dérangeait pas vraiment avant.
Oui, mais là... c'est différent.
Considère que tu es en vacances. Tu retournes dans ta ville, tu vas voir ta sœur... et ton beau-frère.
Oui.
Qu'est-ce qui ne colle pas entre vous ?
Écoute, pour l'instant... j'ai plutôt envie de me concentrer sur la bonne pizza que je vais manger en arrivant.
D'ailleurs, les effets spéciaux semblent avoir carrément régressé depuis le premier Sharknado. Les effets d'eau sont bouillis numériques et les requins sont à peine finalisés. Or que succès du premier oblige, le budget avait été revu à la hausse. Histoire de continuer aussi dans les clins d'œil avec le public, non seulement tout ça est très moche, mais en plus on repompe directement des visuels, des gimmicks, à Ghostbusters, Evil Dead ou les Avengers. Les auteurs vous parleront d'hommage, plutôt que de plagiat. Et le pire, c'est que dans leur esprit, ils sont probablement sincères en faisant ça. Bref, Sharknado 2 sent son produit réchauffé qui joue la surenchère, tout en essayant de rester prudemment attractif, sans savoir vraiment où il va. Quoi qu'on en dise, le premier avait été fait presque sérieusement, presque. Pour l'anecdote, il devait au départ s'appeler Dark Skies, avant le buzz du titre Sharknado sur Internet qui ne le fasse dériver dans la gaudriole la plus décomplexée. C'est pourquoi d'ailleurs je préfère Sharknado 3 à Sharknado 2. Qui, sans être un chef-d'œuvre, se la joue beaucoup plus délirant et essaie de construire un véritable univers et une mythologie. Ici, il s'agit essentiellement de reprendre le premier, de le gonfler aux hormones, sans apporter vraiment quoi que ce soit de neuf, si ce n'est quelques postures, si ce n'est quelques idées jetées çà et là. Ce qui fait qu'au final, on n'en retire pas grand-chose, si ce n'est une impression de déjà-vu, et une rapide lassitude devant la multiplication des effets un peu grossiers. C'est fonctionnel et fait un peu vite, à l'image de la musique des duettistes, Chris Cano, Chris Radenauer... efficace, même si on l'a déjà entendu mille fois ailleurs.
Bien, écoutez-moi! Il y a une tempête qui se prépare! Une tempête d'un genre qu'aucun de vous n'a jamais vu! Je vais essayer d'aller là-haut et de la neutraliser! Mais là, en bas, on va aussi avoir besoin de votre aide! Je sais que vous avez peur! J'ai peur, moi aussi! Ce sont des requins, ils font peur! Personne ne veut se faire dévorer! Moi, je l'ai été! Et pourtant, je suis là! Parce qu'il en faut plus pour mettre un homme à terre.
Ouais.
Et encore plus pour mettre un New-Yorkais à terre.
Ouais, c'est vrai.
Alors, passons aux compétences chorégraphiques de Sharknado numéro 2. Originalité, non acquis. Sharknado 2. Enough said. Histoire, insuffisamment acquis. À Anthony, il y a une différence entre un empilement de scénettes et un scénario construit. Retiens bien ça. Ambiance. En cours d'acquisition. Le point fort de Sharknado, de toute la série de Sharknado, c'est d'attaquer directement au cœur du sujet et de pas nous faire perdre du temps en trop de palabres, en trop d'exposition de personnages. C'est crétin, mais ça va vite. C'est aussi pour ça que ça sera vite oublié. Alors, personnage insuffisamment acquis. Si Yann Zierig et Tara Reid semblent s'amuser à reprendre leur rôle, c'est pas totalement le cas du reste du casting. Il y a une avalanche de caméos, notamment pas mal de scènes avec des présentateurs de talk show télé, mais la plupart du temps, ils en font pas grand-chose. On est un peu désolé pour Vivica Fox, qui après quand même Indépendance Day et Kill Bill a vu sa carrière partir en sucette. Et puis à titre personnel, quand tu t'offres le catcheur Kurt Angle en pompier et qu'il fait même pas une souplexe à un requin, you suck film. You suck. Réalisation en cours d'acquisition. Ferrante est pas vraiment mauvais, mais on sent qu'il se cherche un peu dans ce film, et il est pas aidé par tous les départements techniques qui font vraiment du travail dégueulasse ce coup-ci. Même s'il repompe des plans à droite à gauche, il sort quand même quelques money shots de bravoure, un peu sympa. Notamment un film avec sa tronçonneuse qui rappelle quand même beaucoup beaucoup un certain Ash Williams. Requin, insuffisamment acquis, comme il y en a beaucoup et que ça sent quand même le rush, eh ben, ça a été fait vraiment vite. Et il y en a quand même beaucoup qui sont très très laids. Ah voilà, au total, on est à 7. Je vais rajouter un demi-point pour quelques scènes qui m'ont arraché des sourires. 7,5, c'est routinier. C'est peu et ça reflète bien un film qui n'arrive pas à se démarquer de son prédécesseur, ni à insuffler une dynamique suffisante pour relancer l'intérêt sur le produit. Pourtant, le film va être un vrai succès avec 3,9 millions de spectateurs lors de la première diffusion aux États-Unis. Autant vous dire qu'après ça, le ventre de la bête va être fécond et que nous allons avoir 4 autres numéros de la saga Sharknado. Et si dans mon souvenir, le 3 tirait un peu son épingle du jeu, la suite dégringole vraiment en qualité, à force de répétition et à force de tarir un filon qui est déjà épuisé dès le numéro 2. J'ai pas la haine que certains nanardeurs peuvent avoir pour ce film. Juste de l'indifférence polie. Nous allons maintenant nous intéresser à un film qui prouve qu'on n'a pas besoin d'un gros budget pour faire un bon film de requin. Open Waters, en eau profonde, de Chris Kentis en 2003, ou comment bien rentabiliser un budget de 120 000 dollars.
Il y a des gens qui, pendant leurs vacances, passent leur temps à lézarder. Voici une histoire qu'on n'est pas près d'oublier.
Daniel, où est le bateau?
C'est une bonne question.
On est largués au beau milieu de l'océan! Oh, Seigneur! Oh,
ça va aller, ça va aller. Oh, diable! Je ne crois pas!
Oh, mon Dieu! Oh, non!
Oh,
non!
Suzanne! Suzanne!
Mon Dieu, un truc vient de frôler mon pied. Ça va. Calme-toi. Ça va aller. On va s'en sortir. Non, non.
Vacances tragiques aux Bahamas. Daniel et Suzanne essaient de sauver leur couple, ou plutôt ce qu'il en reste. Eh, tête dans le boulot continuellement, ils se parlent de moins en moins, ils baissent plus. Oh, on peut quand même essayer de recoller les morceaux, ou de faire semblant. Par exemple, en allant jouer les touristes sous les tropiques comme n'importe quel autre couple, un peu en perdition. Et pourquoi pas en allant faire une sortie collective de plongée sur le récif corallien du coin. Et là, c'est ballot. Parce qu'ils ont trop traîné, et que les branquignols qui organisent l'excursion se sont débrouillés comme des manches, eh bien, ils sont un peu trompés sur le total des participants. Mais faut dire aussi qu'avec les clients dissipés qu'ils avaient, qui respectent pas les consignes, qui changent de place tout le temps, ils oublient Suzanne et Daniel en mer. Et ouais, quand ils remontent à la surface, le bateau, il est parti. Et ils se retrouvent comme des andouilles, tout seuls, à la dérive sur l'océan. Bon, au départ, ils se disent, on s'apercevra de leur erreur, les gens vont s'inquiéter, ils vont venir nous rechercher. Mais non. Ils flottent au milieu de nulle part. Ils doivent faire face rapidement à la fatigue, à la déshydratation, aux méduses. Et puis, il y a des requins qui commencent à leur tourner autour.
Qu'est-ce que t'as? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que
j'ai
t'as?
Une crampe, ça va aller. Oh,
est-ce que je peux t'aider? Que veux-tu que je fasse?
Je m'en occupe.
On est en train de tomber en morceaux tous aller. Les deux. Oh, mon Dieu. Oh, Daniel! Oh, c'est vous!
Ils sont partis.
Bon sang, Daniel!
C'est un ressort de requin.
Ça avait l'air gros.
Sérieusement, est-ce que ce sont des mangeurs d'hommes?
J'en ai aucune idée.
Alors ça tombe bien. À la fin de la semaine, je pars en voyage scolaire en Italie. Et je vais diffuser ce film dans le car aux élèves. Vous voyez ce qui arrive quand on est en retard au point de rendez-vous. Eh ben, les accompagnateurs scolaires, ils se barrent et vous vous retrouvez tout seul, perdu, et vous vous faites bouffer par des requins ou par des Italiens, c'est un peu la même chose. Ouais, qu'est-ce que vous croyez qu'ils foutent dans la Bolognaise premier prix? Bon, plus sérieusement, ce film est une vraie bonne surprise. Surtout quand on sait qu'il a été tourné de façon quasi amateur par Chris Kentis et Laura Lowe, son épouse, qui joue aussi les scénaristes, productrices et premières assistantes. C'est donc une vraie bonne surprise en ce début des années 2000, où on s'enquillait des films de requins tueurs téléphonés à la New Image à la chaîne. On veut ici vraiment retrouver l'ambiance de film de survie au premier degré. Un film qui en a clairement inspiré d'autres, dont The Reef, The Shallow ou 47 Meters Down. Et on est là avec du cinéma commando, qui a été tourné pour un budget misérable de 120 000 $, le week-end et les vacances. Et ce, c'est encore plus dingue, sans tricher. Pour sa plus grande part, c'est filmé directement dans l'eau, plus de 120 heures, avec de vrais requins, des requins de corail. Pas les plus grands, certes, mais à l'image, une véritable meute qui tourne autour de ses proies. Les acteurs ayant dû enfiler des cônes de mailles sur leur combinaison pour pouvoir nager au milieu de vrais requins sauvages, qui, pour l'anecdote, n'auront pas fait de moindre mal, le seul bobo à déplorer étant fait par un choc avec un barracuda. Un budget serré qui se retrouve dans le choix de filmer en DV, quasi amateur, qui donne au film un look extrêmement dérangeant. Au début, on dirait une sorte de film de vacances, avec des plans très étrangement cadrés, comme des bulles, ou filmé en gros plan décadré par quelqu'un qui ne saurait pas s'en servir. Cet aspect presque amateur renforce le côté viscéral du film, un peu comme une sorte de found footage, même si le film qui joue un petit peu sur cette idée n'en est pas un. Je ne révélerai pas le dernier plan du film qui renforce encore largement cette idée et finit de nous laisser sur un malaise palpable. Le résultat est un film qui divise, notamment sur Internet. Les réactions sont très opposées sur la plupart des forums et la plupart des sites de critiques. Soit on est dans la fascination pour un projet dans lequel on rentre, soit on a un vrai rejet et l'impression de s'être fait voler 1h10 de sa vie. Ce qui explique qu'on se retrouve souvent avec des notes dans les deux extrêmes, soit très bon, soit très mauvais. Le film ne laisse pas indifférent. Et personnellement, après un moment de flottement lors des 20 premières minutes, essentiellement à cause de la qualité de l'image et du choix des cadrages de vidéo, eh bien je suis rentré dans le film, et je dois avouer que ce film continue à me travailler après son visionnage. Je ferai plutôt partie de la catégorie des gens qui ont apprécié ce film et qui le tiennent même en assez haute estime. Nous en reparlerons quand nous analyserons les qualités squaléographiques d'Open Waters.
Je me sens plus sûr de moi comme ça.
Qu'est-ce qu'on va faire s'il revient?
Je ne sais pas.
On tape dans l'eau, on reste figé, c'est toi qui sais tout sur les requins.
On devrait d'abord être dans une cage.
On devrait d'abord être à terre.
Ah. Les requins? Les requins sont attirés par les poissons blessés.
D'accord.
Donc je pense qu'on devrait plutôt éviter de trop taper dans l'eau. On devrait...
rester immobile?
Tâcher de rester immobile.
Oh mon Dieu. D'accord. Ça m'énerve de pas savoir ce qu'il y a sous moi.
Open Waters a été un succès surprise dans les festivals, notamment Sundance. Ce qui lui a permis une sortie en salle et un vrai succès international. 54 millions de dollars de recettes. Pas mal pour 120 000 engagés. Lionsgate en a racheté les droits et lui a fait bénéficier de la musique de Graham Revell, un compositeur à la filmo impressionnante depuis les années 80, de The Crow aux Chroniques de Riddick en passant par La fiancée de Chucky. Alors je ne sais pas si c'était la volonté initiale de Kentis et Lowe, mais il utilise beaucoup de musique traditionnelle des Fidji ou des Caraïbes, remixée avec des musiques atmosphériques très discrètes. L'effet est vraiment bizarre, souvent à contre-temps par rapport à ce qu'on voit à l'image. Et par le travail sur le sound design, on aurait presque un genre que j'appellerais le tropical funèbre, avec des rythmes caraïbes joués de façon éthérée comme par des fantômes. Détail supplémentaire, le scénario s'inspire d'une histoire vraie, celle de Tom et Helen Lonergan, qui ont disparu dans des conditions similaires lors d'un voyage sur la Grande Barrière de Corail en Australie. Oubliés lors du voyage charter de plongée, ils n'ont jamais été retrouvés. Hormis un message de détresse, alimentant ensuite toutes les rumeurs. Le film s'en inspire, mais il trouve sa voie. Un film qui pour l'instant a généré deux suites. Open Waters 2, à la dérive, de 2006, de Hans Horn, qui a la particularité d'être un film allemand. Alors ils ont dû racheter les droits, je ne sais pas pourquoi, probablement pour bénéficier du titre. Quant à l'histoire, elle ne comporte hélas pas de requins, ce qui fait que nous ne la traiterons pas ici, mais on a un groupe d'amis qui décident de piquer une tête depuis leur bateau de nuit, avant de s'apercevoir qu'ils ont oublié de descendre l'échelle pour pouvoir remonter sur le dit bateau. Et puis en 2017, on a eu un Open Waters 3, Les Abîmes de la Terreur, ou Cash Dives, que nous traiterons, puisque là il s'agit d'une émission de télé-réalité emmenant des gens bagnodés chez les requins dans une cage, qui tourne mal. 47 Matters là, non, pas vu. Pour revenir rapidement sur Chris Kentis et Laura Lowe, leur parcours est assez étonnant, puisqu'après ce film, ils vont échapper au tsunami de 2004 alors qu'ils étaient partis faire une expédition de plongée en Indonésie, et ils ne sont revenus au cinéma qu'en 2011 pour un petit film d'horreur, Silent House, qui n'a quasiment pas eu de succès et qui est demeuré complètement inconnu. Voilà, c'est à peu près toute leur carrière, ce qui est vraiment dommage parce que Open Water montrait vraiment une vraie maîtrise cinématographique, en tout cas un vrai projet cinématographique.
Ma jambe est encore là.
Ça va.
Je la sens encore.
Ça va aller, ça va aller. C'est pas trop mal, mon chéri. D'accord. Ça va aller, chéri, ça va aller.
Il faut mettre quelque chose dessus.
Oui, effectivement, ça saigne. Ça va aller. Je pense pas que ce soit grave, non.
Il y a beaucoup de sang.
Non, il y en a pas beaucoup. Écoute, c'est pas trop mal, d'accord. Ça saigne un peu.
Il faut mettre quelque chose dessus.
D'accord, je vais attacher quelque chose dessus. Toi, respire tranquillement, d'accord.
J'inspire, regarde.
D'accord.
Ça fait mal.
Je vais aller mettre ma salle du retour, d'accord.
J'arrive pas à me contrôler.
Voyons maintenant les qualités scolographiques d'Open Waters. Originalité acquis. Le film date de 2003, une époque où le film de requin n'était plus véritablement considéré avec sérieux. Et il a clairement montré qu'on pouvait refaire peur avec des requins. Même montré au minimum. Histoire acquis. C'est simple, c'est efficace. Avec une montée progressive en intensité, le choc est là. Ambiance acquis. Un film simple, après 20 minutes d'exposition, on ne lâche plus le couple à la dérive. On est dedans. Sa durée d'une heure 19 minutes fait qu'on va à l'essentiel. Et on ressort du film particulièrement marqué. Réalisation en cours d'acquisition. Le choix de filmer en DV colle bien à l'histoire, colle bien au style. C'est aussi un bon moyen de contourner la difficulté financière. Mais c'est aussi un peu la faiblesse du film, parce qu'il y a des plans vraiment dérangeants, vraiment pas beaux. Acteur en cours d'acquisition. Le choix de prendre deux comédiens peu connus, Blanchard Ryan et Dennis Travis, renforce le côté véridique. On s'identifie à eux, d'autant qu'ils sont à la fois sympathiques, mais en même temps un petit peu énervants, avec ce côté superficiel d'un couple qui ne fonctionne plus qu'à moitié. Les requins sont en cours d'acquisition. On les voit peu, mais ils ont été filmés en vrai. Les quelques plans qui nous les montrent tournés autour des acteurs, ou qui montrent la menace furtivement lorsqu'on passe la tête sous l'eau, sont particulièrement réussis. Ce qui nous donne un total de 15. Je vais rajouter un point et demi. Peut-être en tant qu'ancien plongeur moi-même. 16 et demi. On a un nouveau numéro 1 ex aequo avec Peur Bleue, dont il est d'ailleurs l'exact opposé. Félicitations, il a fallu 19 émissions pour qu'on commence à faire bouger le haut du classement. C'est quand même assez extraordinaire. En tout cas, Open Waters va diviser. Je pense que soit vous allez complètement le détester, soit vous allez vous laisser prendre comme moi à ce film. En tout cas, c'est le genre de film dont on ne revient pas indemne. Eh bien voilà, nous venons de vivre des bouleversements. Le classement, c'est assez extraordinaire. Et je suis sûr que notre prochain tirage va nous réserver des films du même acabit. C'est certain, je retourne à ma boîte requin et je vous tire... Sharkman de Michael Oblowitz de 2005. Pas gagné à tous les coups. Bon, c'est pas grave, le deuxième il va être très très bien. Puisqu'il s'agit de Killer Shark, alias Swamp Shark de Griff First, de 2011. Et le hasard fait bien les choses, parce qu'ils ont carrément repompé pour leur poster français l'aileron de requin d'Open Waters. Et allez, honte de rien. Deux recommandations avant de partir, l'excellent podcast Total Tracks de Mr. D et Rafik Djoumi, autour de la musique de film, de longs épisodes où ils reviennent sur un genre entier, il y a eu le western, le film d'aventure, avec une érudition qui force le respect. Au passage aussi, ils ont repris les podcasts de Capture Mag. Ils viennent d'en sortir un sur Shane Black. Ils nous en promettent un bientôt sur Michael Bay. Un podcast cinéma passionnant, fait par des passionnés. Où peut-on se retrouver? Eh bien, sur les podcasts Nanarland, bien évidemment, ainsi que sur Twitter, @ultimetrico. Nous nous retrouvons dans 15 jours. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner.